Je suis avec Eric Corbeyran au festival BD Boom. Bonjour.
Bonjour.
J'allais vous demander de vous présenter, mais ça va être extrêmement long. Donc, on vous connaît pour être l'un peut-être des scénaristes les plus prolifiques de la bande dessinée française. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'écrire autant de bandes dessinées et surtout dans autant de styles différents? Parce que vous faites aussi bien du polar que de la science-fiction, de la fantasy.
Bon, c'est quasiment contenu dans la question. Je dirais que pour moi, une bande dessinée, c'est avant tout une rencontre. Donc, c'est vrai que le travail d'un scénario BD est quelque chose d'assez solitaire et que les rencontres permettent de rencontrer un dessinateur qui a un univers et qui va sur une période d'un album ou de trois albums ou de six albums ou plus le partager avec vous. Donc ces deux imaginaires qui se rencontrent et qui vont cheminer ensemble un petit bout de temps. Donc moi j'ai la chance d'écrire vite et d'être un garçon curieux et plutôt ouvert. Donc ces trois qualités entre guillemets me permettent d'aller à la rencontre de beaucoup de gens, pouvoir être ouvert aussi aux propositions qu'on me fait, parce que je reçois aussi des dessinateurs, je reçois des propositions, et puis de pouvoir les exploiter ces rencontres sous forme d'albums de bande dessinée. Alors écrire vite, ça me permet d'en faire beaucoup. Et puis être curieux, ça me permet d'explorer un petit peu tous les genres. Mais il y a encore des genres que j'ai pas explorés, notamment le western ou on va trouver des genres que j'ai pas explorés. Bon, le western, je n'ai pas encore exploré le western.
Donc une grosse envie de western dernièrement, c'est un appel à tous les dessinateurs de la planète.
Non, je c'est pas une envie, c'est juste un genre qui met un petit peu c'est moi j'aurais bien aimé faire un western avec des Indiens. Voilà, donc parce que je suis quand j'étais un petit peu plus jeune assez passionné par le mode de vie indien et la culture indienne. Donc j'avais des envies il y a une petite 10-15 d'années. Aujourd'hui, c'est un petit peu passé, mais ça peut ressurgir.
Comment ça se passe justement ce travail avec les dessinateurs? Vous disiez que vous aviez des propositions. Est-ce que de temps en temps, vous allez chercher un dessinateur en disant voilà, moi j'ai ce scénario-là. Est-ce que vous pensez des fois à un dessinateur quand vous êtes en train d'écrire votre histoire?
En fait, tous les cas de figure sont envisageables. J'écris rarement une histoire avant de savoir à qui elle va s'adresser. Ça c'est première chose qu'il faut savoir. Je préfère d'abord aller rencontrer la personne pour pouvoir m'imprégner de son univers, de son style graphique, et puis discuter avec lui pour savoir ce qu'il a envie, qu'est-ce que lui projette sur des envies imminente quoi. C'est comme ça qu'on construit. Donc des fois, le plus souvent, je reçois des dossiers où un éditeur me contacte ou un dessinateur me contacte pour me dire telle chose m'intéresse ou tel dessinateur aurait envie de développer tel genre d'histoire. Et puis à moi de me positionner, de dire ok ça m'intéresse ou de dire ouais mais non là j'ai pas trop le temps ou le thème m'intéresse pas. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Après moi je peux avoir des idées de mon côté, et puis essayer de pas trop les développer pour justement rencontrer la personne adéquate et le développer ensuite ensemble. Ça arrive aussi. Rarement, très rarement, j'écris un scénario découpé tout cousu main avant d'avoir rencontré la personne. Ça arrive de temps en temps. J'ai des scénarios qui viennent assez facilement et je me dis pourquoi pas l'écrire. Et je n'ai pas encore de dessinateur. À ce moment-là, je me mets en quête d'un dessinateur, mais après avoir écrit le scénario. Mais c'est quand même relativement exceptionnel dans ma manière de faire.
Est-ce que vous construisez, votre travail de la même façon, quel que soit le style? Est-ce que un scénario de polar, ça se travaille de la même façon qu'un scénario de fantasy?
Oui, j'ai à peu près le même mode de fonctionnement pour tous mes albums. J'emploie à peu près le même temps pour écrire un album, quelle que soit la pagination aussi. Donc oui, ma manière de faire ne varie pas. Ce qui varie, ça va être le contenu et les attentes du dessinateur. Après, ce qui va varier aussi de manière un petit peu plus subtile, c'est le nombre de cases par page. Mais ça, c'est des discussions qu'on a ensuite avec le dessinateur. Est-ce que lui a envie d'une narration trépidante 10, 12 images par page, ou est-ce qu'il a envie d'une narration plus contemplative, 5, 6 images par page. Là, c'est des petits ajustements qu'on fait au préalable et qui vont influer sur la manière de raconter, mais pas sur ma manière d'aborder le scénario.
Même chose, juste des petits ajustements, le fait d'écrire pour soit un one-shot, soit vous avez fait beaucoup récemment de séries en 2 tomes, ou sinon partir sur une longue saga.
Ben, disons que là, il y a encore une idée d'adaptation à la demande. Il y a quelques dizaines d'années, on nous demandait plutôt des séries. Enfin, les éditeurs étaient plutôt ouverts à accepter des séries, qu'on produisait des séries. Moi, j'adore. Je suis bercé par les feuilletons télé de mon enfance et par les séries BD que je lisais et que je lis toujours. J'adore le côté feuilletonesque. Ça, c'est. Et puis là, le marché est en train de se restreindre un petit peu, donc les séries à long terme sont un petit peu moins bienvenues chez les maisons d'édition. Donc, ce qui nous permet de nous replier sur du one shot ou sur du diptyque ou du triptyque, ce qui est pas une mauvaise chose. Non plus. Enfin, moi, j'ai une capacité d'adaptation qui permet de. Il suffit de mettre moins d'éléments en jeu pour lancer la série et on a quelque chose de plus court. Moi, je m'y retrouve dans tous les cas de figure. Et puis, c'est vrai que certains sujets se prêtent plus volontiers à la série longue. Je pense notamment au Champ des Striges, au Régulateur, à Wina, etc. Enfin, quelques-unes de mes séries qui n'ont d'intérêt que parce qu'elles ont de l'amplitude, et c'est dans l'amplitude que le plaisir va naître chez le lecteur. Après, il y a d'autres récits comme Rosangela ou Lidvin que j'ai fait avec Olivier Berlion chez Dargo, qui eux n'ont de valeur que parce qu'ils sont uniques et parce qu'ils retracent un destin en 60 ou 70 pages. Donc les sujets trouvent aussi leur épanouissement dans la pagination. Enfin, c'est une donnée très très importante et il faut pas la négliger. Puis faut pas faire n'importe quoi.
Pour rentrer, j'allais dire, un peu plus dans votre actualité, on va commencer par peut-être Garrigue. Cette série policière, ça vous est venu comment cette histoire? Parce qu'on part sur la fin en fait, et après on remonte au fur et à mesure avec des flashbacks qui se font par intermittence, une histoire assez simple en fait, et pourtant quelque chose de très très construit.
Oui, d'abord, faut dire, c'est une idée d'Olivier de vouloir faire un récit dans le cadre de la Provence, donc de la garrigue, la sécheresse, le soleil, les paysages chauds mais décharnés, et puis pas montrer le côté carte postale de la garrigue, aller aussi du côté des cassotos, un petit peu l'envers du décor. C'est vrai que la garrigue, c'est très joli, les champs de lavande, du soleil, et c'est très chaud. Mais de l'autre côté, il y a aussi des petites affaires louches, etc. Donc nous, ce qui nous amusait, c'était d'aller de l'autre côté du décor. En fait, Olivier voulait absolument, c'était ce qui allait faire le noyau central du récit, un personnage qui s'aperçoit à un moment qu'il a été floué. Un personnage intègre, droit dans ses bottes, un personnage dont la loyauté n'a jamais failli et qui se rend compte à un moment que ce qu'on lui a servi pendant 10-15 ans, c'était construit sur un malentendu. Donc c'était ça, son sujet, c'était ça. Donc il m'a mis ça entre les mains, il m'a dit si tu veux, voilà, ça se passe dans la garrigue et puis il y a ce personnage-là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je lui ai fait des propositions. Et du coup, on a construit une histoire très simple. Mais comme la psychologie de Martial, ce personnage central, occupait énormément de place dans l'histoire, l'idée était de raconter de manière un peu complexe une histoire très simple pour la faire mieux vivre. Donc après, c'est une question de technique. Et c'est plutôt cinématographique comme démarche. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup de flashbacks, mais c'est pas des flashbacks non plus qui sont à la même époque, donc on passe d'une scène à l'autre, ce qui se fait assez naturellement au cinéma, un petit peu moins naturellement en bande dessinée, avec le risque de perdre du lecteur en cours de route pour cause d'incompréhension, parce qu'on a plutôt tendance à mieux comprendre un film, même s'il est déconstruit, qu'une bande dessinée. On attend d'une bande dessinée qu'elle soit linéaire, etc. Donc l'idée était de déconstruire un petit peu le scénar pour lui redonner un petit peu de jus.
Le fait d'avoir des planches au départ sans texte, comment ça s'est fait le choix? Parce que ça surprend, on tourne et
se passe rien. Enfin, il se passe des trucs, ouais, mais on ne dit rien. Ben, en fait, au tout départ de l'action, je vous avouerai qu'on voulait faire un one-shot. Donc, on avait prévu notre histoire en 80 pages, et cette introduction muette devait mettre en appétit, devait éveiller la curiosité du lecteur, et il y a de la musique et je suis un peu déconcentré. Mais... Et puis, l'éditeur, à un moment, nous a dit, non, 80 pages, ça va être trop cher, on va pas pouvoir y arriver, il va falloir faire quelque chose, donc essayer de couper l'histoire en deux. Du coup, on s'est retrouvé avec cette intro de 10 pages muettes dans un tome de 40 pages, ce qui est énorme, hein, ça fait quasiment un quart de l'album qui reste donc muet et sur une question, qui ne trouve pas de réponse d'ailleurs dans l'album. Mais l'idée était aussi de pouvoir faire les deux tomes de manière assez rapprochée pour qu'ils puissent sortir l'un derrière l'autre sans avoir un an et demi à attendre. Donc je pense que le lecteur l'aura bien compris et ça passe bien, mais c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, quoi.
Pour changer complètement de sujet, sur Okeania, est-ce que vous pouvez nous présenter le contexte de cette série ?
Okeania est une drôle de planète, une planète sur laquelle les océans ont été remplacés par des océans de végétation, de verdure. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, mais visuellement c'est une planète extrêmement curieuse. Et puis on se demande pourquoi à la place de l'eau il y a des feuilles. On a inventé avec Alice Picard, la dessinatrice, tout un monde autour de cette planète. Donc comment on se déplace sur un océan de feuilles? Comment on vit sur un océan de feuilles, comment on se nourrit sur un océan de feuilles, comment on se reproduit, etc. Donc ça nous a posé pas mal de questions qui ont fait partie intégrante de l'intrigue. Donc voilà un petit peu le paysage d'Okeania. Ce sont des gens donc qui circulent de manière vagabonde à la surface d'un océan de feuilles et donc qui se sont réinventés toute une mythologie à partir de monstres qui vivent sous le feuillage, monstres desquels il ne faut surtout pas s'approcher, et donc et rester à bord des récifs. Et l'idée, c'était que deux adolescents ayant envie de transgresser un peu l'interdit font du surf à la surface d'Okeania et se retrouvent séparés, et l'un plonge à l'intérieur des entrailles de la planète et se retrouve
Oh, ça ce sera pour la fin, pour le troisième tome qu'on n'a pas encore.
D'une part, qu'est-ce qui vous a inspiré pour le monde d'Okeania ? Et ensuite, est-ce que vous souhaitiez avoir un propos écologique quand vous avez initié cette série ? Et est-ce que cet aspect merveilleux et onirique qui est développé dans Okeania vous aide à présenter un propos actuel, puisque l'écologie est quand même au cœur de tout en ce moment ?
Disons que je n'entrevois pas de faire une bande dessinée sans qu'il y ait un propos. Là, il était effectivement question d'écologie, et on l'apprendra un petit peu plus tard, de revanche de la planète sur ses occupants. Ensuite, je suis quand même assez porté sur effectivement le merveilleux, le fantastique, la fantaisie. Donc ça, c'est ce qui va, j'avais envie de dire, ce qui va être l'habillage du propos. Donc il y a toujours deux choses, hein. Un propos quel qu'il soit, en l'occurrence effectivement un petit message écolo, et puis un habillage merveilleux, science-fictionnesque, un petit peu fantasy, voilà, dans Okeania. Donc les deux cohabitent, vous voyez, on a du mal à dissocier l'un de l'autre, les deux se nourrissent l'un de l'autre aussi, voilà, c'est comme ça qu'on essaye d'avancer. Donc je demande au dessinateur de me faire des propositions visuelles, et ces propositions visuelles vont nourrir le message d'une certaine manière, quoi, nourrir le propos.
Au niveau de l'année, il y a quand même eu beaucoup d'albums qui sont sortis, on en a parlé de quelques-uns, donc est-ce qu'il y en a qui vous ont tenu un peu plus à cœur, parce que là on vient de voir que pour Garrick c'était plus un personnage qui avait été développé et puis ensuite un thriller autour. Pour Okeania c'est plus un monde qui a permis de développer des aventures. Après on a le troisième œil par exemple qui vient de sortir chez Delcourt et qui est assez sympa au niveau mystère par exemple.
Oui, le troisième œil est donc un diptyque réalisé par Sébastien Portet qui signe SP. Là, c'était plutôt un échange, parce que Sébastien et moi, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble sur un sujet qui s'appelle Le Territoire. On a commencé par une série qui s'appelle Le Territoire, qui est une série fantastique où un univers un peu étrange, un peu comment dire, un peu sinistre, essayait de s'imposer à notre réalité. Donc cette série s'est terminée l'année dernière sur le tome 6. Et puis, on fonctionne bien, Sébastien et moi, donc on avait envie de poursuivre notre collaboration. Et puis, il m'avait demandé de plancher de mon côté sur un sujet, et puis de son côté, il avait aussi envie de développer des idées personnelles. Donc, tout en finissant le territoire, on a travaillé chacun de notre côté, et puis est arrivé le moment de la mise en commun de nos recherches respectives, et puis ça a donné le troisième œil. Donc c'est à la fois un polar, enfin c'est même pas un polar, c'est plutôt un rangé, enfin s'il faut mettre des étiquettes, hein, c'est toujours pareil, mais je pense pas que ce soit un polar, je pense que c'est plutôt un roman noir, parce qu'en fait il n'y a pas de police, donc c'est plutôt une ambiance assez sombre qu'on a un petit peu enveloppée d'un élément fantastique, enfin dans lequel plutôt on a introduit un élément fantastique qui est cette espèce de pouvoir que se découvre le personnage principal qui s'appelle Arnaud, qui donc est un drôle de pouvoir dont je ne sais pas s'il faut qu'on dévoile actuellement le, donc vous allez peut-être le faire ou ne pas le faire, ou laisser nos auditeurs aller se renseigner, aller à la pêche au renseignement. Voilà, donc l'idée là c'était d'essayer d'unir nos deux envies du moment, et ça a donné le troisième œil. Alors toute la partie tagueur, graffeur, hip-hop, ça c'était le côté amené par Sébastien, c'est sa culture, il avait très envie de montrer ça. Puis c'est toujours pareil, moi je reçois le matériau qu'on me donne, je reçois les éléments, puis j'essaie de les intégrer à une intrigue. Voilà, donc il m'avait donné comme ça divers éléments, puis moi de mon côté j'avais travaillé sur la psychographie. Alors, c'est quoi la psychographie ? Eh ben, c'est une photographie, enfin la photographie médiumnique en fait. C'est les gens qui réussissent à imprimer sur le matériel, les émulsions photographiques, des ectoplasmes et autres tâches un petit peu étranges. Donc je m'étais pris de passion pour la psychographie. Donc j'avais beaucoup lu de choses à ce sujet-là. Et du coup, l'idée du troisième œil était née de ça.
Moi, j'ai une question donc sur BD Boom, puisque actuellement nous sommes au festival BD Boom de Blois. Je voulais savoir ce que ça représente pour vous, ce festival, parce que quand même dans le cadre de BD Boom antérieur, vous avez publié Parole de Tolar, Parole de Parloir et Parole de Sourd. Donc je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez.
Disons que je suis un fidèle de BD Boom depuis effectivement plusieurs années, voire même très longtemps. Je suis en train de faire le calcul rapidement dans ma tête. Je crois que ça fait une petite quinzaine d'années que je viens à BD Boom chaque année. L'idée, c'est que je trouve l'équipe d'organisation depuis le début, c'est vraiment des gens qui sont très ouverts sur tout un tas de sujets. Donc on s'est retrouvés sur cette espèce d'ouverture d'esprit, et très vite, en fait, ils m'ont demandé de participer à des collectifs, à essayer de gérer un petit peu des collectifs sur les prisons et récemment sur le monde de la surdité. Donc ça, c'est des choses que je fais parallèlement à mon boulot. C'est passionnant parce que je fais énormément de fiction, des histoires de monstres avec des ailes, des histoires d'aventurières, des histoires de tueurs, etc. Tout ça, c'est de la fiction, c'est pour rire. Et là, on m'a offert, enfin, BD Boom m'a offert du matériau réel, c'est-à-dire des témoignages, des anecdotes, des choses que les gens avaient envie de dire, et puis ils m'ont demandé de les transformer en bande dessinée pour que cette parole qu'on avait offert à des gens dans des situations de détention ou de surdité, ces paroles puissent sortir et aller vers un public réceptif. Donc voilà, donc j'ai fait 4 livres en quelques années avec eux, avec des projets des projets futurs d'autres ouvrages de ce type-là. Donc c'est aussi pour ça que BD Boom me plaît autant, c'est parce qu'il y a cette espèce de partage, cette espèce d'état d'esprit qui est là, qui est social, citoyen, ouvert un petit peu, et moi ça me permet de montrer une autre face de ce que je sais faire. Donc je mets ma technique, qui est toujours la même, dans ce qu'on disait tout à l'heure, ma technique au service de choses qui sont plus proches du réel que ce que je fais d'habitude. Voilà, c'est la BD documentaire, c'est pas mon truc, c'est pas ce vers quoi je vais tendre naturellement. Je préfère la fiction, je préfère les histoires inventées, je préfère le fantastique, je préfère tout un tas de choses parce que ça me permet plus de rêver. Mais quand on me propose ça, je suis preneur et je saisis la balle au bon et je me dis on va donner le meilleur de soi, peut-être être utile un petit peu entre guillemets parce que c'est des bouquins qui ont une forme d'utilité alors que tout le reste c'est entertainment quoi.
Je voudrais revenir moi, sur la série New Harlem, New Byzance, New York, parce que vous disiez que justement vous travaillez en fonction du dessinateur, et là travailler avec trois à la fois, comment ça va se passer? Enfin, on connaît déjà le début, et comment ça va se passer sur la suite, parce que les interactions, voir des personnages qui sont proches, qui ont le même nom, et pourtant c'est pas eux, peut-être que oui.
Bah disons que alors Uchronie, puisque c'est cette série dont on parle, c'est un projet où le concept est assez original, puisqu'il ne s'agit pas ni de voyage dans le temps, ni de ceci cela, c'est un voyage à travers les réalités. Alors c'est pas nouveau en thème de science-fiction, mais c'est nouveau dans la bande dessinée, à ce degré-là d'implication. J'ai fait par le passé plusieurs uchronies, j'ai réalisé plusieurs uchronies, notamment Le Fond du Monde, qui était une uchronie, Le Régulateur, qui est un steampunk, mais qui peut être aussi considéré comme une uchronie. Là, c'est vraiment l'illustration un petit peu brute de l'uchronie, c'est-à-dire prendre trois réalités et les décrire, et ces trois réalités, on va s'apercevoir qu'elles s'interpénètrent. De quelle manière, ça sera dit dans les tomes 2, mais effectivement on a un personnage central qu'on retrouve dans les trois réalités. On a aussi plusieurs personnages secondaires qui portent effectivement le même nom ou pas dans les trois réalités. Donc sont-ils les mêmes, sont-ils différents? Tout ça va trouver des réponses au fil des albums. Alors Uchronie, c'est un projet qui est né de plusieurs volontés. La première, c'était une volonté d'Éric Chabert de travailler avec moi, quelqu'un qui travaillait chez Glénat et qui a demandé à son éditeur de me contacter pour faire un projet avec moi. Donc on a échangé avec Eric sur ce qu'on avait dans le ventre chacun, et il en est ressorti que Philippe Cadic n'était pas étranger à nos bibliothèques et qu'on aurait bien envie tous les deux de faire quelque chose façon Maître du Haut Château ou Ubique. Et puis dans le même temps, alors ça aurait donné une série, on était parti sur l'idée d'une série simple avec un seul dessinateur sur ce mode d'Uchronie. Parallèlement à ça, j'ai Dilali Defali, avec qui je travaille là très régulièrement depuis plusieurs années, qui est venu me voir un petit peu avec la même idée. Alors je me suis dit, soit je fais deux séries sur un petit peu le même thème, soit je fais une série un peu plus grosse et on partage ce thème à plusieurs. Donc je leur ai posé la question, ça leur posait aucun problème, et donc il a fallu qu'on trouve un troisième dessinateur que Glénat nous a gentiment proposé. Et la deuxième volonté, c'était les éditions Glénat avaient envie de travailler avec moi sur un projet à concept, après le succès du Décalogue, après le succès de le truc de Convar, Convar et Falk. Aujourd'hui ça s'appelle Inri, mais c'est le triangle secret. Donc Glénat s'était positionné comme le leader des projets à concept, et puis ça faisait plusieurs années qu'il me disait ça serait bien que tu nous proposes un projet comme ça. Donc du coup on a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que effectivement j'allais travailler avec Éric Chabert, mais j'allais aussi pouvoir répondre à la demande de projets un peu importants. Et du coup on a mis ça sur pied, et c'est vrai que les dessinateurs ont certaines séquences communes, puisque des choses se déroulant dans une réalité se sont montrées dans une autre réalité, ressurgissent dans une autre réalité. Donc là il y a un petit côté usine à gaz effectivement, où il faut coordonner les affaires, c'est pas toujours évident. Mais on s'en sort parce que les dessinateurs collaborent entre eux, c'est-à-dire s'envoient les passages qui correspondent à... Et puis moi je veille un petit peu à ce que ce soit les bons passages qui passent d'une bande dessinée à l'autre pour qu'il y ait une forme de cohérence. Donc voilà, alors moi ça a été un peu le projet de cette année, quoi. C'est-à-dire que... J'ai énormément travaillé l'année dernière parce que je voulais le finir. Je voulais finir l'écriture des 10 tomes, puisque c'était une série qui sera en 10 tomes. Et je voulais finir l'écriture des 10 tomes avant que le tome 1 sorte. Donc je me suis débrouillé pour que jusqu'à décembre 2007, je n'ai plus une virgule à changer du projet qui sortait en janvier 2008. Donc ça a été un énorme boulot pour moi en 2007. Je suis sorti de là un petit peu fatigué parce que c'était... Alors ça se voit pas à la lecture parce que c'est... J'avais peur de compliquer trop les affaires. Finalement, c'est un projet qui se lie assez bien. Mais quand je le racontais, quand j'étais en train de l'écrire et que je le racontais autour de moi, les gens ouvraient des yeux en soucoupe et me disaient, mais c'est dément, enfin, on va rien comprendre. Certainement parce que je le racontais mal. Finalement, je le raconte assez bien. Sous forme de bande dessinée, ça a l'air d'être plus limpide parce que les gens me disent, ah, bah, finalement, ça va, on comprend. Mais c'était une usine à gaz à réaliser. Ça a été passionnant pour moi. Enfin, j'arrive aussi, je saute un peu toutes les questions, hein, mais j'arrive aussi à un moment de ma carrière où j'ai envie de me lancer ce type de défi. Et où c'est vrai, écrire 10 tomes sans avoir la moindre idée de ce qu'allait être le résultat du tome 1, le résultat des ventes, le résultat commercial du tome 1, ça a été une espèce de gageure. Bon, ben, je suis content parce que j'ai réussi à le faire.
Quelque chose que vous aimeriez rajouter pour conclure ?
Voilà, j'ai rajouté plein de trucs. Non, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure que j'ai publié 170 albums et que j'ai encore plein de projets sous le coude et plein d'envies et plein de désirs aussi de rencontres qui vont me permettre d'explorer tout un tas d'autres univers et de faire tout un tas d'autres albums. Et je crois que là, on est en train de rejoindre la première question.
Merci beaucoup.
De rien. Merci à vous.